Cette émission vous est présentée par Cyclan.net, votre source d'information sur l'univers Star Wars.
Hi, my name is Peter Mayhew. I play Chewbacca on Star Wars, and you're listening to Star Wars on Direct.
So what I told you was true, from a certain point of view.
Everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here now. Thank you.
Avertissement. Ce podcast contient du contenu qui peut influencer votre expérience des futures productions de l'univers Star Wars.
I'm not afraid.
L'écoute de cette émission est laissée à votre entière discrétion.
Evacuate? In our moment of triumph?
I'm going to regret this.
Look, don't worry. Everything's going to be fine. Trust me.
If what you've told me is true, you will have gained my trust.
I wonder if your feelings on this matter are clear.
For your own good, stay out of this affair.
Now you will experience the full power of the dark side.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, édition spoilers. Aujourd'hui, on va vous parler des rumeurs et spoilers sur la prémisse de l'épisode 7. On va vous parler plus en détail sur le rôle supposé de Gwendoline Christie. Et on va vous parler un peu du tournage sur l'île Skellig Michael, en fait, plus nos théories. Donc, mon nom est Danny et je suis en compagnie de Sébastien pour une deuxième émission consécutive. Comment ça va, Sébastien?
Ça va bien. On s'en sort, on est debout, on va passer au travers.
Exactement. Donc, je vous rappelle que récemment, on a enregistré l'émission Star Wars en direct 94 où il n'y a pas du tout de spoilers ou très, très peu, tandis que celle-ci est une émission complètement spoilerific. Donc,
supercalifragilisticexpialidocious.
Exactement, maximum spoiler, comme on pourrait dire. On parlera pas de la série Star Wars Rebels parce qu'on va en parler dans une émission spéciale qui va paraître plus tard cet automne. Donc, patience par rapport à l'émission Star Wars en direct Rebels.
Oui, mais il va y avoir des personnages là, avec des histoires et des affaires, ça va être le fun.
Oui, Jean. En effet. Donc, patience, on va vous en parler. Probablement qu'on va enregistrer ça dans pas trop longtemps avec Henri. Le temps qu'Henri revienne de vacances et qu'on prépare l'émission. Donc, immédiatement, on va aller parler des rumeurs sur la prémisse de l'épisode 7. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans les dernières semaines? Bien sûr, ceci est à prendre avec un grain de sel.
Un grain de sel, tu dis?
Une poignée de sel,
ouais. Ton grain de sel, là, il est comme gros comme un bloc de béton.
En effet. Donc, sur le site Ballast Digest, nous a sorti ce qui serait la prémisse de l'épisode 7. Donc, je vais vous lire la traduction telle quelle et on va discuter de chacun des points par la suite. Donc, en quoi consiste la prémisse de l'épisode 7? Imaginez l'habituel déroulant des films Star Wars et quand il se termine, nous faisons une translation vers le haut sur les étoiles. Mais au lieu de voir un vaisseau spatial traverser le cadrage de l'écran, nous découvrons une main. Une main coupée qui une main coupée qui dérive dans l'espace. Une main qui tient un sabre laser. La main atterrit par la suite sur une planète désertique qu'on a appris qui n'est pas Tatooine, où elle est découverte par nos deux héros, soit les personnages joués par Daisy Ridley et John Boyega, qui jouent un personnage qui essaie de changer sa vie. Entre guillemets, il serait un Stormtrooper. Ils reconnaissent que cette relique est un sabre laser et décident de le rapporter aux bonnes personnes. Pour accomplir leur mission, ils quittent la planète et font ainsi la rencontre avec Han Solo et Chewbacca. Ces derniers ne pilotent plus le Faucon Millennium, mais c'est un spoilers. Donc, je ne vous le dirai pas pour l'instant. Ça, c'est qu'est-ce que la personne qui a dévoilé la prémisse mentionne. Donc, c'est pas moi, c'est lui qui nous le dit, qui a décidé de ne pas nous le dire.
C'est pas pire quand même. Laisse-moi t'expliquer toute l'histoire, te spoiler toute l'histoire, mais pas te donner ce spoiler là.
Non, exactement.
Quoi?
Donc, par la suite, il continue. En tout cas, Han et Chewie reconnaissent le sabre laser comme étant celui appartenant à Luke et qu'ils n'ont d'ailleurs pas revu leur ami depuis une trentaine d'années, juste après les événements du Retour du Jedi. Ainsi commence une quête pour retrouver le maître Jedi qui a disparu. Pendant ce temps, sur une planète de glace, les forces malfaisantes construisent une super arme, cette fois capable de détruire des systèmes solaires entiers et non seulement de simples planètes. Comme vous pouvez le voir, il y aurait certains parallélismes avec les événements de l'épisode 4, mais les choses qui semblent familières ne le sont pas nécessairement. N'assumez pas que la planète désertique et la planète de glace ont déjà été visitées. Donc, techniquement, le gars nous dit « c'est pas Tatooine, c'est pas la planète de Hoth ». Il y en a bien plus, bien sûr. Ceci ne sont que les grandes lignes, un simple synopsis. J'entends de très très bonnes choses au sujet de l'action et d'excellentes choses au sujet des personnages et de la façon avec laquelle les acteurs et actrices les personnifient. J'entends souvent que John Boyega transporte le film. Donc vraiment qu'il est le personnage principal. On a appris plus tard que cette description représenterait le début du film, comme par exemple le premier quart du film, par exemple. Donc, qu'est-ce que je viens de vous lire, la prémisse? Ce serait comme le premier quart du film. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a appris en tant que tel. Maintenant, on va en parler un petit peu. Premièrement, Sébastien, le contenu du crawl, donc le texte déroulant, qu'est-ce que tu penses que ça va nous dire en tant que tel, le texte déroulant, là? On suppose ici, là.
Ben, moi, sincèrement, j'ai l'impression que le texte déroulant, ce que ça va vraiment contenir, ça va plus être quelque chose comme... On est maintenant plusieurs années après la bataille, après la destruction de la seconde Death Star, puis la mort de l'Empereur. Plusieurs factions impériales ont commencé à se battre entre elles pour essayer d'avoir le contrôle sur leur petit coin de la galaxie. Puis, dans un effort diplomatique incroyable, on retrouve la princesse Leia qui est maintenant peut-être pas à la tête de, mais proche de la tête de l'Empire intergalactique, qui essaye donc justement là, de réparer les pots cassés pour entre deux systèmes pour une raison X, Y ou Z.
Donc, un peu décrire la situation de la galaxie dans le fond.
Exactement. Ce qu'on a vu à plusieurs répétitions le passé.
Moi, j'ai aussi l'impression qu'ils vont peut-être nous donner un indice si la galaxie en général est favorable ou non aux Jedi. Donc, est-ce que l'Empire a encore une bonne poigne? Parce que les Jedi, je veux dire, sont quand même... ils n'étaient pas très, très aimés déjà vers la fin de la prélogie, donc... comment que l'existence de c'est quoi l'existence de l'Empire? Est-ce qu'il y a un nouveau gouvernement, etc.? Un peu qu'est-ce que tu mentionnais là. D'après moi, ça va être quelque chose de genre, est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'à mentionner certains personnages comme Luke est en exil, blablabla, Han Solo et Chewbacca sont rendus commandants d'une flotte ou peu importe là. Qu'est-ce qu'ils font? Je pense pas qu'ils vont aller dans le détail des personnages. Je pense qu'ils vont s'en tenir comme on dit un peu à la situation de la galaxie, en général, sans mentionner des personnages.
Ça se peut, par contre, que, tu sais, comme vers la fin du crawl, on a quelque chose comme l'aide du grand maître Jedi Luke Skywalker est maintenant requise pour mettre
fin à
cette situation. Donc, tu sais, comme des envoyés spéciaux sont envoyés pour le retrouver. puis aller le chercher puis le ramener sur Coruscant ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, c'est pas impossible justement que ça soit Daisy Ridley puis John Boyega qui soient ensemble dans un vaisseau. Ben, ils atterrissent sur une planète de sable qui n'est pas Tatooine. puis ils essaient d'aller trouver Luke, là. Bon, c'est possible.
Ensuite, la main dans l'espace. Ça, c'est un truc qui est vraiment particulier. Est-ce que tu crois que c'est vrai que la main était qui? C'est-tu la main de Luke Skywalker? Comment elle s'est rendue là, etc.? Qu'est-ce que tu penses de ça?
OK. Premièrement, là, Doctor Who a déjà fait ça.
Ah ouais?
Ouais, l'histoire de la main, là, ça a été une partie intégrante de plusieurs épisodes de Doctor Who. Puis, non, ça a déjà été fait. Je suis pas mal certain que Disney a quand même la présence d'esprit de ne pas reprendre ce type d'histoire-là, premièrement. Deuxièmement, quand Luke se fait couper la main sur Cloud City, puis que la main, elle tombe dans le bas de on ne sait pas trop quoi, puis elle s'en va, on ne sait pas trop où. Cloud City n'est pas dans l'espace. Cloud City est dans l'espace atmosphérique de la planète Bespin. Donc, si la main se retrouve à sortir dans les vidanges comme Luke, elle se ramasse dans la planète.
Ouais, c'est ça.
C'est pas mal certain que tout va la détruire, puis que, tu sais, comme c'est des éléments organiques, ça sera pas maintenu en vie, ça va être détruit. Le sable laser aurait plus de chances de survivre. Est-ce que le sable laser pourrait être récupéré par un vaisseau qui mine le gaz Tibana? Hey, peut-être, mais là, on stretch en tabarouette.
Parce que Bespin, c'est une planète gazeuse, donc vraiment, il n'y a pas de... Il y a un core en tant que tel, mais il n'y a pas de surface en tant que tel. Donc, tu peux pas... peut-être le sabre, oui, il est fait dans un matériel super résistant, là, dans la physique de Star Wars, là, si on ne sait pas.
Il trouve un point de buoyancy avec les gaz qui fait qu'il ne se ramasse pas trop loin ou peu importe. Là. Mais bon, on commence à étirer la sauce pas mal. Puis, l'autre option pour l'histoire de la main et du sabre laser, c'est que la main puis le sabre tombent dans Bespin, mais au lieu de se ramasser dans les vidanges, elle se ramasse sur le balcon d'un des habitants. Puis quand cet habitant-là se sauve, il sauve avec la main puis le sabre laser. Puis là, ben, si on veut tirer ça au ridicule, on peut dire que ce personnage-là, ça pourrait être Will Rowhood.
Qu'est-ce que c'est ça?
Will Rowhood, c'est le gars qui sauve de Bespin avec un truc pour faire de la crème glacée.
Oh, OK.
dans Empire Strikes Back. Fait que, non, mais tu sais, si on veut tirer la sauce pour aller faire le retour là-dessus, là, puis comment faire pour...
qui dit que c'est la main de Bespin, c'est peut-être Luke dans les 30 ans qui s'est fait couper la main, donc c'est sa main mécanique qui tient le sabre. Ou pourquoi que ce serait pas V2 s'est fait couper la main aussi? Est-ce que ça pourrait être la main de V2 qui est sortie du shaft de l'étoile noire avant qu'elle explose? Peu importe. Mais c'est le sabre de Luke, donc c'est pas la main de Darth Vader, assurément. Donc, la plus grande supposition, ce serait que ce serait la main mécanique de Luke qui tiendrait le sabre ou quelqu'un qui a volé le sabre de Luke qui s'est fait couper la main. Mais, comme tu mentionnes, Doctor Who l'a déjà fait, donc, selon moi, il y a peut-être eu confusion dans les informations qu'il y a eu et c'est peut-être seulement le sabre qui dérive dans l'espace. Mais il n'y a rien qui dit que la scène d'ouverture, c'est pas un vaisseau qui est démoli, puis dans les débris, il y a une main qui tient un sabre laser, une main où ça peut être juste le sabre laser seul, puis il parlait qu'il y avait un vaisseau qui s'écrasait sur la planète désertique, ben c'est peut-être des débris qui s'écrasent, c'est peut-être... puis il retrouve le sabre à l'intérieur, là. Simplement. Donc, ça peut être plein de choses. La chose qui peut porter à ce que ça soit vrai, c'est que le concept de la main coupée est très, très fort. T'sais, dans Star Wars, c'est la main d'Anakin Vader puis de Luke Skywalker qui se font couper tous les deux la main. Mais bon, est-ce que tout le monde va faire le lien avec ça? Surtout les plus jeunes, je parle, là. En plus, tu commences un film de Disney, entre guillemets, avec une scène assez traumatisante. Là. Ben, pas pour un adulte, mais c'est comme une main coupée. Là.
Ben ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment là, d'aller chercher trop loin, puis non.
C'est ça. Puis tu mentionnais la main qui tombe sur la planète. Peu importe. Là, oui, ok, il y a peut-être la physique Star Warsienne est différente parce qu'il y a du son dans l'espace puis des trucs du genre. Là. Mais bon, t'sais, mais t'sais, une main, ça se désintègre dans l'atmosphère à l'entrée. Puis, à moins que ce soit une main avec un métal ultra titane ou peu importe le métal de Star Wars qui a été fait, à la vitesse avec laquelle il tomberait dans l'atmosphère. À l'impact, il se désintégrait. Là. Okay. Peu importe comment que c'est solide. Là. Donc,
ben, c'est ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Au niveau de la physique, là, peu importe dans quel univers tu te retrouves, non.
Non, c'est ça. Les gens seraient repoussés en partant par ça.
Mm.
Ensuite, on parle bon, que le sable est découvert par les deux héros. Moi, qu'est-ce qui m'intrigue, c'est que les deux héros sont déjà ensemble quand ils découvrent le sabre. Si c'est au début du film, là, ça. Là,
ouais,
là.
Mais c'est correct parce que tu vas avoir lu les trois livres avant le film. Tu vas comprendre toute la backstory de ces deux-là.
Non, mais tu sais, on va en venir plus loin quand on va parler du rôle de Gwendoline Christie. Il y a un background au personnage de John Boyega. Moi, je veux voir comment il s'est rendu à la planète avant de voir le sable tomber. Je veux pas que ça commence avec les deux personnages qui sont déjà là puis qui se connaissent. Je veux dire, je sais que Lost, que J.J. a dirigé, il faisait beaucoup de flashbacks, mais je veux pas voir de flashbacks dans Star Wars, là. Cet élément-là m'intrigue un peu. C'est certain mm-hmm. qu'ils peuvent trouver le sabre un petit peu plus tard dans le film, là. Mais ça montre. Si ça, c'est la description du premier corps, d'accord. Mais si c'est vraiment chronologique dans ce que je viens de lire, c'est un peu étrange, selon moi.
Pas mal d'accord avec ça.
Ensuite. Le rôle de John Boyega, entre guillemets, Stormtrooper. Qu'est-ce que tu penses de ça? De l'histoire que, bon, il aurait défecté de l'Empire pour être un rebelle.
On va recycler l'histoire de Jarek Muriel, c'est ça?
Ouais.
Non, mais je veux dire, vu que c'est une histoire de légende, pourquoi pas?
Mm-hmm. Moi, j'étais pour mentionner mon audio drama Star Wars in the Shadows. Le personnage principal est une fille de l'Empire, puis tout au long du audio drama, ben, elle vire rebelle, tu sais, tout au long du audio drama, mais c'est un peu le même genre, là.
Mais je serais vraiment pas surpris.
Mm-hmm. Ben, c'est intéressant comme concept.
Ben, ça fait du sens, puis ça fonctionne aussi avec ce qu'on connaît du passé.
Mm-hmm.
De la trilogie originale. Il y a combien de personnes qui sont allées à l'Académie impériale pour ensuite se rejoindre aux rebelles.
Exactement.
Là, maintenant que les rebelles ont démontré qu'ils étaient capables d'être des terroristes de force majeure pour faire éclater deux super stations...
Et tuer des milliers de personnes.
Et tuer des milliers de personnes, incluant de pauvres...
Stormtroopers.
Faiseurs de toiture. Ouais, c'est... Puis des plombiers là, dans la deuxième étoile noire, là, c'était pas fini tout ça. Là. Les électriciens et mm-hmm. tout le kit. Là,
exactement.
Non, le fantôme de Jimmy Hoffa, là, ils aiment pas les rebelles. Puis t'sais, après avoir démontré tout ça dans la trilogie originale, c'est pas impossible que là, il y a plus de gens qui vont dire c'est là, on se lève, puis c'est là qu'il y a de plus en plus de Stormtroopers qui vont se revirer de bord parce qu'ils font comme je suis peut-être pas du bon côté finalement.
Mm-hmm. Mais
donc ça se peut qu'il soit un bon gars tout de suite en partant, ça se peut qu'il soit pas un bon gars. J'ai finalement écouté le film Attack the Block,
mm-hmm.
puis un peu
ce concept-là.
Ce concept-là, ouais, qui arrive au personnage. Là.
Donc, le conflit interne d'un personnage qui...
La profondeur de toute base à la... Oh, c'est un Stormtrooper, fait qu'il est méchant. Mm-hmm. Puis finalement, ben, tu comprends que ben, il est devenu un Stormtrooper parce que ses parents se sont fait tuer par des Rodians. Mm-hmm. Puis là, ben, il n'a pas eu le choix que de se faire recruter par l'Académie impériale parce que son grand-père, il est mort mm-hmm. quand il avait 18 ans, blablabla. Bla, bla. Fait que, tu sais, c'est... une série d'événements infortunés qui a fait que il est devenu ce qu'il est devenu là.
Tout simplement, moi je pense que ben, c'est super intéressant parce que moralement, il doit changer ses croyances, donc il va peut-être s'écraser sur la planète après une bataille, peu importe, il va rencontrer Daisy Ridley, il va voir la vraie face de l'Empire, qu'est-ce qu'ils font vraiment et non qu'est-ce qu'on voit sur HoloNet News.
Ouais, c'est ça.
Puis il va voir, il va commencer à changer, donc c'est intéressant comme progression pour un personnage principal. Donc, comme tu disais, c'était un peu comme Han Solo,
mm-hmm.
qui était un officier de l'Empire, puis qui il a changé d'idée, puis il a libéré Chewbacca. Mais ça, c'est l'univers étendu Legends. Mais
exact.
Bon, c'est un peu le même...
Mais ça, par contre, ce qui est le fun de ce côté-là, c'est que les HoloNet News, quand tu les écoutes, le deuxième, c'est justement des nouvelles de soulèvement sur mm-hmm. Kashyyyk.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, ça suit là, l'historique qu'on connaît déjà un peu. Mm-hmm. Donc, ils jettent vraiment pas tout au vidange.
Non,
mais pour revenir à John Boyega, il y a le charisme de Denzel Washington.
Ah ouais.
Puis c'est un très jeune acteur, mais il a le charisme de Denzel Washington, Danny, je te le dis. Donc, je crois que ça va être relativement facile pour lui d'aller chercher la profondeur d'un on va dire, officier impérial
mm-hmm.
qui va se retourner son esprit
mm-hmm.
pour aller vers le bon côté de la chose.
Mm-hmm.
Contrairement, fort probablement, à son officier supérieur.
Mm-hmm. Qu'on va parler plus tard.
Qu'on va parler plus tard. J'essayais de faire un segue, tu sais.
Ouais, c'est ça. Il y a d'autres points à parler avant. Un des points qui me fait un gros doute, il rencontre Han Solo et Chewbacca, les deux personnages principaux, pour aller porter le sabre laser, peu importe comment ils ont réussi à les trouver. Han Solo et Chewbacca, aucune idée. Là, ils n'ont pas une adresse. Il y a un bottin de l'Empire, puis on va aller voir Han Solo et Chewbacca où est-ce qu'ils habitent.
La force.
Ouais, c'est la force, enfin. Mais il y a deux points. Tu rencontres Han Solo et Chewbacca, puis un, il ne pilote plus le Millennium Falcon. Ça, c'est comme, quoi? Surtout qu'on sait qu'il est dans le film, le Faucon Millennium.
Mm-hmm.
Et deux, le pire, ils n'ont pas vu Luke depuis 30 ans. Donc, la date de Return of the Jedi ou après Return of the Jedi. Donc, j'ai des gros doutes sur ce point-là. Personnellement, Han Solo et Chewbacca, leur vaisseau, c'est le Faucon Millennium. Je veux dire, c'est comme ta vieille voiture que tu n'es pas capable de te séparer. Là. T'sais?
Yep.
Donc, pour moi, c'est... il y a quelque chose d'étrange dans cette partie-là. Puis l'autre, que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas vu Luke, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit arrivé. Est-ce que les gens ont appris que c'était le fils de Darth Vader, puis il y avait tellement de pression qu'il était obligé de s'en aller puis se cacher, ou il commence à... il y a des tendances côté obscur, puis il essaie de s'éloigner de tout le monde pour pas faire le mal. Regarde, il y a tellement de théories possibles. Toi, qu'est-ce que tu penses du point, justement, dans le Solo puis Chewbacca, qui n'ont pas vu Luke depuis 30 ans, puis qui pilote pas le Faucon?
Connaissant Han Solo, c'est pas impossible qu'il ait été mis au défi par une partie de carte quelconque, peu importe,
mm-hmm.
qu'il l'ait perdu puis qu'il ait perdu le faucon. C'est pas impossible.
Lando, non. Qu'il l'aurait repris.
Peut-être. Ça veut dire que c'est pas impossible. Est-ce que ça serait surprenant? Très. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas vu Luke. Après la... Non. Ça, là, après toutes les aventures qu'ils ont passées ensemble, après le fait que Luke découvre que Léa, c'est sa seule famille, c'est pas mal certain qu'ils vont passer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps ensemble. Puis je pense que c'est clair que Han et Leia vont... Il y a quelque chose qui s'est passé là.
Non, c'est ça. Ou soit que Luke s'est sauvé par lui-même ou il s'est fait... Ben, je pense pas qu'il s'est fait kidnapper. Et s'il l'a pas vu depuis 30 ans, c'est une décision de Luke. Là. Je peux pas croire qu'il est arrivé quelque chose puis il s'est fait lancer sur une planète abandonnée, sur une planète déserte, puis il y a aucun moyen de s'en sortir.
Ça serait bizarre, ça serait un peu... T'sais, comme je veux me protéger, je veux protéger la force ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'ils vont essayer d'amener dans l'idée que Luke a ramené la balance dans la force en le sens que il s'est débarrassé des Sith, du moins des Sith qui restaient. Donc, il a peut-être décidé de se réclure pour pas que la force recommence. Dieu seul le sait. Une autre chose qu'on pourra mentionner pendant le tournage sur l'île de Skellig Michael, ça fait pas loin de... d'un peu de pont de tournage à la Dagobah.
En effet. Mais il y a peut-être le fait aussi que la population a appris que Luke avait la force, un peu comme Darth Vader, qui était une chose qui était pas bien vue parce que ça donne trop de pouvoir à une seule personne. Tu sais, comme une personne qui a ce pouvoir-là est... les gens n'aiment pas ça, quelqu'un qui a ce pouvoir-là, parce qu'il est incontrôlable. Tu peux pas... il est capable d'influencer les esprits, puis tout, tu peux pas. Puis il y a vraiment une mauvaise... il paraît très mal face au public, fait qu'il a décidé de s'éclipser, tout simplement. C'est peut-être aussi simple que ça. Il y a trop de pression du public. Même s'il il a fait le bien, ils veulent pas... qu'il y ait autant de pouvoir. À moins qu'il se soit éclipsé et qu'il y ait une académie secrète à quelque part, ça c'est une autre chose. On peut supposer aussi. On a tellement peu de détails encore, on fait juste de la spéculation présentement.
Exact.
Dernier point sur cette prémisse. Des forces malfaisantes qui construisent une super arme tueuse d'étoiles. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Attends, il n'y avait pas une série de livres qui avait été écrite, là, c'était 3 livres, puis ça avait un vaisseau en espèce de forme de cornet de crème glacée, puis ça s'appelait le Sun Crusher.
En effet.
Ça, déjà vu? Je pense que oui.
Ben, encore une fois, c'est des trucs qu'ils peuvent réutiliser. C'est plus, ça n'existe plus, ces
trucs-là.
C'est ça,
c'est des légendes. Donc, est-ce que ça se pourrait? Ben, pourquoi pas? Je veux dire, on a bel et bien eu les Death Star. Quelque chose qui pourrait être relativement intéressant, ça serait de justement voir le développement du Sun Crusher, puis tu sais, d'avoir comme des super armes de destructrices d'étoiles comme, Corellia, voyons.
Center Point Station.
Merci, Center Point Station. Puis là, ben, tu te ramasses avec le mât. Puis dans le mât, ben, il y a comme 3, 4, 5 Death Star. Là, voir 5 squelettes de Death Star au grand écran, là, Danny, là, je pense que ça serait... ben, il n'y a pas d'autre mot, là, ça serait jouissif. Puis tu te rends compte à quel point les plans de l'Empereur étaient vraiment incroyables. Là. Tu fais comme... Oh, OK, c'est pas fini, là, cette histoire-là, avec les impériaux, là. Non, là. Donc, il y aurait moyen de faire quelque chose.
Ben, il y avait les forces malfaisantes. Il y avait, on en a parlé dans un des Star Wars and Direct SP précédents, l'idée du groupe de vilains qui veulent ramener les Sith. Donc, ça peut être, ça doit être ces gens-là, j'imagine, si la rumeur est vraie. Puis j'ai entendu aussi cette semaine, ça c'est assez poussé, puis il y a de plus en plus de monde qui aime cette théorie-là. Plagueis serait pas vraiment mort. Je sais pas si tu as lu le livre.
J'ai pas passé en travers.
Palpatine, en tout cas ça c'est la rumeur, puis il y a absolument rien de vrai là-dedans, c'est juste des suppositions. Plagueis serait pas vraiment mort, il se serait mis lui-même dans un état de suspension, donc... un type d'hibernation, peu importe, que Palpatine aurait pensé qu'il serait vraiment mort. Puis que les Jedi Noirs qu'on parle, les Sith les forces malfaisantes essaient de le ramener à la vie, donc le réveiller. Puis ça serait comme le méchant qui serait peut-être dans l'épisode 8, 9, peu importe. Ça pourrait être un twist intéressant, parce que ça fait un lien avec la prélogie. T'sais, il est comme en suspension d'animation depuis ce temps-là. Puis Palpatine pense qu'il a vraiment contrôlé, mais non, Plagueis, comment il a réussi à empêcher les gens de mourir, ben c'est qu'il s'est mis comme en espèce d'hibernation pour revenir plus tard. Là. Ça pourrait être une théorie intéressante à voir. Totalement supposition.
Ouais, mais c'est une supposition qui fait encore plus de sens que l'espèce de main flottant dans l'espace.
Ouais, c'est sûr. Ben, ça serait intéressant à voir. Puis, encore une fois, il y a un lien avec la prélogie. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu parler encore.
Mm-hmm.
Il n'y a aucun lien avec la prélogie présentement. Je le sais qu'ils ne veulent pas vraiment trop lier avec ça. Mais ça serait un truc intéressant à voir. Surtout oui. si la rumeur qui essaie de ramener les Sith est vraie. Ça serait bien de réveiller un maître.
Effectivement, non, c'est sûr qu'ils n'auront pas le choix ça ou trouver vraiment un holocron Sith puis de faire un peu comme dans Rebels là, avec le message. Genre, ça, c'est patati patata, puis c'est comme ça qu'on a survécu pendant toutes ces années. Donc, écoute ce que je vais t'apprendre là, puis tu vas devenir quelqu'un de super puissant.
Parce que veux pas, il faut que ces gens-là apprennent les pouvoirs des Sith à quelque part. T'as beau avoir un holocron, faut que tu t'es fasses enseigner. Bon, donc ça, tout ce qu'on vient de parler, c'était la nouvelle qui nous décrivait la prémisse de l'épisode 7. Donc, si vous avez des suggestions ou des commentaires, ben écrivez-nous et puis on parlera de vos théories dans la prochaine émission. On va continuer avec... maintenant, on a eu plus d'informations sur le rôle de Gwendoline Christie. Donc, juste un petit rappel, Gwendoline Christie, c'est l'actrice qui joue le rôle de Brienne of Tarth dans Game of Thrones, donc la chevalière, la grande dame qui sait très bien manipuler le sabre laser. Donc, le site Badass Digest nous a... est revenu avec une nouvelle fournée de rumeurs, cette fois concernant le rôle de Gwendoline Christie, dans l'épisode 7. Selon leur source, Gwendoline Christie jouerait le rôle du commandant du personnage de John Boyega, donc c'est censé être un Stormtrooper, donc on peut supposer un commandant impérial, donc qui finit par s'allier avec le personnage de Daisy Ridley, donc Boyega. C'est ce siècle Daisy Ridley, comme on a parlé précédemment. Et cette dernière, donc, le personnage de Gwendoline Christie, ne serait pas très heureuse qu'il ait déserté. Elle est donc à sa recherche et serait une des méchantes du film. En plus de ça, l'actrice s'entraîne au sabre laser, apparemment, donc ça pourrait supposer qu'elle jouerait un des Sith ou une des personnes qui essaient de ramener les Sith, etc. Mais l'article, il continue, puis il dit que ce rôle aurait été changé de sexe depuis son casting initial et qu'il s'agit de celui qui devait être incarné par l'acteur Benedict Cumberbatch à une époque. Je ne sais pas si tu te souviens, Sébastien, qu'est-ce que j'avais dit à la dernière émission. J'avais dit que c'était probablement... il y avait eu un changement de rôle.
Ouais, ouais, ouais.
Puis, je veux dire, ça a l'air que ça se confirme de plus en plus.
Ça fait énormément de sens.
Mm-hmm. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que tu penses du changement de sexe du personnage? Donc, ça aurait été un homme, puis ils l'ont changé en femme. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison particulière pour ça?
J'ai envie de ne pas répondre à cette question-là. Parce que j'ai l'impression que je vais me mettre les deux pieds dans l'eau bouillante.
OK.
Est-ce que je crois qu'il y a une raison derrière le changement de sexe? Je crois qu'il y a peut-être plusieurs raisons.
Mm-hmm.
Premièrement, il y a probablement une raison de... on veut avoir des personnages féminins forts dans l'univers de Star Wars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va prendre un des personnages qu'on pensait... donner à un homme, puis on va le donner à une femme à la place, puis on va réécrire le personnage pour que ça fasse du sens. Mm-hmm. OK, bon, à qui est-ce qu'on va donner ça? On a besoin d'une actrice qui est capable de d'émettre des personnages forts. Ah! Elle! Mm-hmm. Ça va faire la job. Donc, ça, ben, tant mieux. Mm-hmm. Hein? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a un peu de ça.
Mm-hmm.
Ben, je vais mettre les deux pieds dans l'eau chaude, là. Je pense qu'il y a un peu de ça.
Ben, moi, je pense que c'est exactement ça. Probablement quand ils ont sorti la photo de tous les acteurs, la photo noir et blanc,
mm-hmm.
Tout le monde, pas tout le monde, mais énormément de monde parlait. Ah, il y a juste deux femmes dans tout ce monde-là, Daisy Ridley et Carrie Fisher, comment ça se fait? Puis ça, c'était avant que Nwango et Chrissy aient été nommés.
Ouais.
Donc, est-ce que Lucasfilm a écouté un peu les fans? On fléchit sous la pression?
C'est pas impossible du tout. Mm-hmm. Puis, bon, attends, si on prend un peu aussi dans les légendes de l'univers Star Wars, n'oublions pas un personnage relativement important qui est, ironiquement, en lien avec le Sun Crusher, l'amiral Dahala.
Mm-hmm.
Donc, qui de mieux que Gwendolyn Christie pour jouer ce personnage-là. Je sais pas. Oui, c'est sûr, on peut nommer des noms, là.
Mm-hmm. Je doute qu'ils vont reprendre quiconque dans l'univers étendu en tant que tel. Là.
Moi aussi, ça m'étonnerait énormément que ce soit l'amiral Dahala. Mais, bon, ça serait le fun de voir un fort personnage comme ça. Mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est d'amener des épices à cette personne, à ce personnage-là. Mm-hmm. C'est-à-dire, on va faire un personnage qui est un admirateur des Sith.
Mm-hmm.
Puis cette personne-là a fait plusieurs recherches, puis elle connaît les Sith bien comme il faut. Puis, elle se promène de planète en planète avec ses Stormtroopers pour essayer de retrouver des artefacts Sith, justement, mm-hmm. pour ramener les Sith à la vie,
mm-hmm.
pour se débarrasser des rebelles, ou pour essayer de faire renaître l'Empereur, ou peu importe.
Mm-hmm.
Et dans le courant de ces choses-là, ben là, tu sais, ça fait un peu comme la découverte du Tesseract là, dans le premier Captain America. Ben, elle découvre un holocron, elle devient surpuissante, puis John Boyega, il dit « Non, moi, non. That's it, je veux plus rien savoir. » Puis il décide qu'il s'en va.
Mm-hmm.
Puis là, ben elle, ça se peut qu'elle va dire « Non, tu vas pas ruiner mes plans, je vais te retrouver, puis... Je vais te tuer, ou quelque chose comme ça.
Moi, qu'est-ce que j'aime du concept de Dahala, c'est que l'Empire a toujours été contre les femmes à des hauts rangs, ou même des femmes tout court. Il n'y avait jamais de femmes dans l'Empire, dans l'armée, en fait. Et puis là, on sait que Dahala était une des rares qui avait réussi à avoir un haut poste dans l'Empire. Donc, si le concept est encore là, que l'Empire est sexiste, n'aime pas les femmes, puis qu'elle, par sa présence, par sa stature, est une femme forte dans l'Empire, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir changé le sexe pour ça. Parce que avoir une présence, puis ça va avoir un peu le reflet de la société maintenant aussi, là, que mm-hmm. les femmes prennent de plus en plus de place, etc. Donc, dans un monde dominé par les hommes, surtout dans les hauts postes. Donc, je trouve que c'est une bonne raison dans ce cas-ci d'entrer ce concept-là dans Star Wars.
Mm-hmm.
Mon autre question, pourquoi est-ce qu'elle poursuivrait Boyega? C'est-tu juste parce que, regarde, moi personnellement, les Stormtroopers, là, y en a-tu une pelletée, là? Pourquoi Boyega en particulier?
Parce qu'il y a quelque chose qu'elle veut.
Exactement.
Mais parce c'est quoi qu'il s'est, il s'est sauvé avec un fragment d'holocron. Il s'est sauvé avec un holocron. Ça pourrait être carrément ça. Il s'est sauvé avec un holocron. Il tombe sur le personnage de Daisy Ridley qui était elle-même à la recherche de l'holocron pour essayer de prévenir que ça tombe entre de mauvaises mains.
Mm-hmm.
Et puis... Puis là, ben, elle sauve avec lui, justement, mm-hmm. que lui, quand il a vu le pouvoir incroyable de Legron, il a dit non, ça faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Puis c'est là qu'il décide de faire son entre guillemets, son traître, mais de prendre ses responsabilités en mm-hmm. tant que rebelle, puis de se retourner contre son officière commandante.
Je vais sortir une théorie encore plus simple. Boyega est sensible à la force. Puis elle découvre, ou je sais pas trop, puis un simple Stormtrooper, elle l'aurait laissé partir. T'sais, un de plus, un de moins, ça fait pas de différence vraiment. Mais le fait qu'il est sensible à la force, peut-être que elle est peut-être un Imperial Inquisitor, un Inquisiteur ou un Dark Jedi, ou encore une fois, elle est pas profane des Sith, mais comme elle aime les concepts Sith, où elle fait partie de ceux qui essaient de ramener les Sith. Puis Boyega était un de ceux qui connaissaient qu'elle faisait ça. Mm-hmm. Peu importe, peut-être même que lui était un des Dark Jedi. Il était peut-être pas seulement un Stormtrooper, il était peut-être sensible à la force, puis c'est peut-être pour ça qu'il était un bon Stormtrooper qui s'est visé peut-être à cause de la force. Mais en fait, il y a peut-être une raison différente, tu sais. Peut-être même que le personnage de Gwendoline Christie est peut-être aussi un Mandalorien. Ça peut être plein de choses. Ou simplement un commandant impérial qui est tombé sur un sabre et qui manipule le sabre sans avoir le pouvoir de la force aussi. Là. Ça peut être ça aussi. Parce que il me semble qu'on voyait des Stormtroopers avec des sabres laser dans les concepts de Ralph McQuarrie aussi.
Mm-hmm.
Donc, encore une fois.
Effectivement, ça pourrait être un truc intéressant, là, voir des Stormtroopers avec des sabres laser puis avec des boucliers.
Mm-hmm. Donc, encore une fois, si c'est l'ode à McQuarrie, ça me surprendrait pas. Tu sais, ils ont vu que les sabres, c'était utile, les sabres laser, fait que pourquoi pas en avoir comme arme standard.
Effectivement.
Enfin. Et on va terminer avec qu'est-ce qui est en train de se dérouler sur l'île Skellig Michael. Donc, on a vu que Daisy Ridley, Mark Hamill et Stephen Fairley, qui est un lutteur de la WWE, ils sont sur l'île en train de faire une scène qui apparemment ne dure qu'une minute dans le film. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? On est sur une île, on est sur des ruines. Ça fait-tu Sith? Ça fait Académie Jedi? Ça fait... Qu'est-ce que t'en penses?
Ça fait des ruines Sith, si tu me demandes mon avis, parce que l'Irlande, là, ça peut avoir des journées plutôt sombres et...
Brumeuses,
ouais. Quand je regardais les photos sur Google Maps de l'île de Skellig Michael, c'est une île qui est vraiment... Premièrement, là, c'est dans le nord Atlantique. Mm-hmm. C'est vraiment... Excuse-moi l'expression, mais perdu. Faut que tu partes d'un port qui est un petit peu plus inland dans l'Irlande, dans les fjords irlandais, pour te rendre jusqu'à cette île-là. Et puis, sur l'île, il y a des espèces de huttes vikings en pierre. Mm-hmm. Ça fait très mystérieux. Fait que si tu rajoutes à ça du brouillard puis un peu, là... Mm-hmm.
Mm-hmm. Ça fait très Dagobah aussi.
Ça fait un peu Dagobah, ça fait un peu... ça peut être pour toutes sortes de choses, mais comme on a appris qui était là pour le tournage,
mm-hmm.
On peut pas faire autrement que de se poser des questions. Bon, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'histoire à ce moment-là?
Mm-hmm.
Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ben, les rumeurs étaient que Daisy Ridley était la fille... de Princesse Léa, donc sensible à la force techniquement, donc probablement que Ridley va être celle qui va retrouver Luke Skywalker, si c'est le cas qu'ils sont en train de le chercher. L'autre chose, il y avait aussi des gens qui avaient dit qu'ils avaient vu combattre au sabre laser. Est-ce que c'est une pratique? Est-ce que on aurait un super twist à l'histoire, puis Ridley ça serait une des méchantes du film?
C'est pas impossible.
Ou ce serait Hamill qui serait rendu du côté obscur, un peu comme dans Dark Empire,
mm-hmm.
qui se serait reculé pour pas faire du mal à la galaxie puis s'isoler totalement. Il y a plein de théories possibles. Puis je vous mentionnais dans Star Wars en direct 94 que Stephen Fairley, le lutteur de la WWE, avait déjà joué le rôle de Darth Vader lors d'une tournée de promotion, donc il était sous le costume. Je sais pas c'est quelle promotion que c'était en tant que tel. Peut-être au Star Wars Weekend, à Disney ou peu importe. Mais bon, est-ce que ça pourrait être un peu le même type de choses qu'on a vu dans l'Empire contre-attaque quand Yoda il dit à Luke, va dans la grotte, il met sa ceinture avec ses armes, puis là Yoda il dit, ben t'amènes dans la grotte ce que tu portes, ou non, c'est quoi l'expression exactement, j'essaie de me rappeler. You only bring what you bring,
you only... with you. C'est ça, c'est you only bring with you what you take.
Mm-hmm. Donc, est-ce que il va avoir un peu le concept, un peu le même concept, puis là, Daisy Ridley va aller dans une grotte, puis là, elle va voir la vision de son grand-père, en fait, ou je sais pas trop, ou Luke va présenter à Daisy Ridley qui est son grand-père. Elle doit le savoir, mais peut-être que Luke a des images de ça. Sur un holocron, peu importe, il a peut-être, il va peut-être lui montrer qu'est-ce que son grand-père a fait, etc. Montrer les dommages que le côté obscur peut faire. Est-ce que Daisy va devenir l'apprenti de Luke à ce moment-là? On ne le sait pas encore, mais bon, on peut imaginer plein de choses. Mais il y en a qui disaient que c'était la dernière scène du film. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme dernière scène du film?
Ça peut être un combat qui va voir la fin de Luke Skywalker aussi. C'est pas impossible.
Mm-hmm.
Ça pourrait être un type de twist plot qui est là juste pour nous rappeler à quel point hey, on est sérieux par rapport à ça. Là. Mm-hmm. Donc, ils veulent essayer d'attirer le monde. Puis, comme on le sait, Obi-Wan n'était pas mort après être mort. Donc, ça se peut que si Luke se fait, en guillemets, tuer, qu'il meure pas nécessairement.
Mm-hmm. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des Force Ghosts, là, des fantômes de la Force là-dedans. Là. S'il n'y en a pas, les fans ne seront pas contents, j'ai l'impression. N'est-ce pas? Donc, je pense que ça couvre beaucoup, pas mal tout ce qu'on avait discuté pour cette courte émission de Star Wars en direct spoiler. Si vous avez, comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des réactions sur les sujets que nous venons de discuter ou d'autres suggestions, contactez-nous à studio@swandirect.com. Qu'est-ce que vous pensez de vos théories pour le tournage sur l'île? Qu'est-ce que vous pensez du personnage de Gwendolyn Christie? Qu'est-ce que vous pensez surtout de la prémisse de l'épisode 7 qui est sorti? Pensez-vous que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des choses que vous prenez avec un grain de sel? Des choses que vous croyez absolument? Faites-nous le savoir. Ou d'autres théories aussi. Votre propre théorie sur l'histoire. On aimerait ça vous entendre. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en rejoignant notre groupe Facebook à l'adresse facebook.com/swendirect. Et suivez notre compte Twitter à l'usager @swendirect. Laissez-nous des commentaires sur iTunes, parlez de nos émissions à votre famille, vos amis. On essaie d'élargir notre taux d'histoire, donc partagez nos articles Facebook et retweetez nos tweets, etc. Le plus vous parlez de nous, le plus qu'on a de l'interaction avec vous, le plus ça va être plaisant et le plus qu'on va faire d'émissions parce qu'on va être encore plus motivé à en faire. Donc, merci Sébastien de ta participation.
Ça fut un plaisir.
Donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et à très bientôt.